Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et avant toute chose, écoutez ça.
Alors à suivre, à train de côte, à salé, deux suprêmes, un coquelet, un pavé du jour saignant.
Un pavé saignant avec un peu, partir avec.
Un restaurant, ça nous manque hein, terriblement, mais cette ambiance-là, on va sans doute la retrouver dans 8 jours. Édouard Philippe devrait confirmer aujourd'hui la réouverture des restaurants le 2 juin dans les zones vertes. Un accord a été trouvé sur le protocole sanitaire à mettre en place. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Selon vos informations, on a abandonné la règle des 4 mètres carrés par client.
Et oui, ça c'était vraiment le point noir jusqu'ici. C'est donc un grand ouf de soulagement pour tous les professionnels de la façade atlantique, de la Côte d'Azur. Alors pour autant, on devra quand même se plier à un protocole sanitaire strict, mais oublier ce fameux périmètre de 4 mètres carrés, ça voulait dire 2 mètres d'écart. Impossible dans ces conditions, bien sûr, de dîner à deux. Et puis surtout, les restaurateurs n'auraient fait qu'un quart de leur chiffre d'affaires. On sera donc à 1 mètre les uns des autres, c'est déjà pas mal. Mais il faudra aussi porter un masque à chaque fois qu'on se déplace dans l'établissement. Alors pour aller à sa table, bien sûr, mais aussi pour aller se laver les mains, par exemple. Les serveurs seront, eux, systématiquement masqués. Et puis les nappes et les cartes des menus seront jetables.
Alors cela dit, Martial, tout n'est pas réglé.
Ben non, parce que les discussions se poursuivent maintenant sur l'accès aux zinc du bar. Le petit café au comptoir en lisant son journal, ça va rester quasiment impossible. Le serveur sera derrière une vitre de plexiglas pour prendre la commande et vous devrez laisser 1 mètre entre chaque personne accoudée, donc ça perd un peu en convivialité. Les buralistes s'en inquiètent beaucoup parce que sur 24 000 établissements, eh bien 17 000 sont des bars tabac.
Et tout ça, c'est pour les zones vertes, oui. Mais les zones rouges, alors, on fait régime?
Oui, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça reste fermé. Le calendrier n'a pas changé. On refera une évaluation dans les prochains jours et on verra si les cafés-restaurants de ces zones rouges pourront rouvrir d'ici 3 semaines.
Information RTL, signée Martial Liu, chef du service économie d'RTL.
Et à 8h20, la réaction de Michel Sarron, qui est chef 2 étoiles et l'un de nos visages de Top Chef sur M6. L'autre grand rendez-vous de ce lundi, c'est l'ouverture du Ségur de la Santé cet après-midi. Isabelle.
Une vaste concertation sur l'avenir de l'hôpital, la gouvernance, le temps de travail, mais aussi et surtout les salaires. Car aujourd'hui, les soignants ne veulent plus seulement être applaudis, ils veulent être payés, payés correctement. Écoutez Ophélie et Chantal, elles sont infirmières au centre hospitalier de Fontainebleau.
Ça fait 20 ans que je suis infirmière, je gagne 2100 euros. Et on ne se rend pas compte du travail non-stop.
La responsabilité,
tout à fait.
On a la vie des gens entre nos mains. Rien n'est logique dans nos rémunérations et avec le travail qu'on fournit et les horaires. J'ai eu le malheur de compter sur les 2 derniers mois, j'ai fait 450 heures en 8 semaines. J'ai compté, j'aurais pas dû.
C'est pas d'aujourd'hui que les soignants et que l'hôpital criaient aux misères et aux scandales.
C'était avant le coronavirus.
Exactement. Voilà, nous on est les derniers bourricots de la Terre.
Témoignage d'infirmière au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Le Ségur de la Santé doit durer jusqu'à la mi-juillet. Il est piloté par Nicole Nota, l'ancienne patronne de la CFDT.
Plus de 28 000 morts du coronavirus en France. C'est un homme ce matin qui veut leur donner une voix.
Il s'appelle Lionel Petitpas. Ce retraité de la Marne vient de créer la première association de victimes ou famille de victimes du coronavirus. Sa propre femme a succombé au Covid-19 en mars. Il n'a même pas pu lui dire adieu. Nicolas Burnand l'a rencontré pour RTL.
Dans sa maison, Lionel Petitpas a dû apprendre à vivre seul, avec les souvenirs de Joël, sa femme. Une nuit de mars, son épouse a été emportée par le coronavirus. Il n'a pas pu lui dire au revoir.
Elle s'est retrouvée assez subitement fiévreuse. Elle est partie avec l'ambulance et je ne l'ai plus jamais revue. Ce qui me reste d'elle, ça sera le vendredi suivant, la dispersion de ses cendres au jardin du souvenir. On n'a pas eu le droit au funérarium. J'arrive pas à me mettre dans la tête que mon épouse est décédée, malgré qu'elle n'est plus présente.
Ce retraité de 66 ans n'arrive toujours pas à faire son deuil, a l'impression qu'un moment de vie lui a été volé. Il espère qu'un hommage national sera rendu aux milliers de morts de cette pandémie.
Tout au long de sa vie, on est des numéros. Et le jour de son décès, elle devient une quantité, puisque le soir, le médecin général de la santé, il est en ce temps de mort aujourd'hui. Cette même nation qui a été défaillante dans les dispositions qu'il a fallu mettre en place serait dans ce cas-là dans la capacité de rendre un hommage à ces personnes décédées ou faire le lien vers le deuil définitif.
Dans son combat, Lionel Petitpas vient de créer une association de victimes qui réunit déjà plusieurs dizaines de familles. Il va désormais écrire au président de la République.
Reportage RTL signé Nicolas Burnand. Les EHPAD dans la tourmente. 10 000 résidents sont morts du coronavirus, environ un tiers des victimes. Et plusieurs établissements sont visés par des plaintes des familles pour négligence ou mise en danger d'autrui. Aujourd'hui, des avocats réclament le regroupement de ces plaintes au pôle santé publique de Marseille pour que la justice puisse remonter jusqu'aux politiques et aux patrons des grands groupes. Le défi de Camélia Jordana à Christophe Castaner. La chanteuse propose un débat télévisé au ministre de l'Intérieur sur le plateau de son choix, dit-elle. Samedi soir, dans l'émission On n'est pas couché, elle avait affirmé ne pas se sentir en sécurité face à un flic, je cite. Elle affirmait également que les gens en banlieue se font massacrer pour leur couleur de peau. Christophe Castaner a dénoncé des propos mensongers et honteux.
Dans un instant, la pollution collection printemps 2020. Il y a des masques qui traînent absolument partout.
RTL Matin.
Économisons-la.
RTL Matin.
8h06, le journal Isabelle Choquet. Il nous accompagne désormais au quotidien. Les masques sont en train, Isabelle, de devenir une nouvelle pollution.
Oui, on en trouve partout, sur les trottoirs, sur les plages. À Marseille, on en voit flotter dans le Vieux-Port et dans les quelques criques désormais accessibles. C'est le vent qui les pousse jusque-là et ça laisse craindre le pire pour cet été, Hugo Hamelin.
Oui, le masque jetable, c'est le mégot 2020, c'est le nouveau fléau de la plage.
Tiens, voilà, regardez. Il y en a partout, c'est une catastrophe.
Pêcheur occasionnel, Wassim en voit un peu partout depuis une semaine.
Avant, c'était les canettes, les bouteilles de coca. Maintenant, c'est devenu les masques et les gants, beaucoup de gants. Les gens, ce qu'ils consomment, les retrouvent dans la mer, malheureusement. Ouais. Je pêche pas que ici, je pêche du côté de Martigues, un peu et Port-de-Bouc. Et franchement, pour faire le canal, voir ce qui en sort, c'est impressionnant. Masques, gants, c'est fou.
Avec la fermeture des bars, les fêtards se rabattent encore plus sur le littoral, dans les petites criques, comme le Vallon des Offres à Marseille.
Non, mais malheureusement, c'est vrai qu'on se rend compte quand en termes de pollution, déjà, c'est quand même super sale. Hein. Alors, j'ai pas vu de masque, j'ai vu des gants. Mais effectivement, les gens, c'est pas parce qu'on a vécu une grosse crise sanitaire qu'ils font plus attention, quoi. Ils ont pas forcément conscience que ça peut être vecteur de maladie. Donc, c'est dommage.
Une nouvelle pollution rendue encore plus visible par l'absence de ramassage des ordures sur le bord de mer, des opérations collectives qui sont interdites en ce moment pour cause de distanciation sociale.
Reportage RTL d'Hugo Hamelin à Marseille. Et les masques vendus dans le commerce sont conformes à 96%. C'est ce qui ressort d'une enquête de la répression des fraudes qu'RTL vous dévoile en exclusivité ce matin. C'est souvent l'information des consommateurs qui pêche par exemple sur le nombre de lavages possibles. Au Royaume-Uni, la polémique enfle autour de Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson. Il est accusé de ne pas avoir respecté les règles du confinement. Il a notamment pris la route avec sa femme malade pour conduire leur fils chez ses grands-parents, alors que lui-même présentait des symptômes. Et bien, malgré cela, Boris Johnson lui apporte son soutien. Il estime qu'il a agi en bon père de famille.
C'est donc un conseiller très spécial. On termine avec un immortel, auteur de chansons éternelles.
Jean-Loup Dabadie nous a quittés hier. Il avait 81 ans. Comme parolier, il nous a laissé des tubes inoubliables. Ma préférence pour Julien Clerc, Lettre à France, qu'on entendait tout à l'heure avec Cyprien Sini. C'est du Polnareff, bien sûr, l'italien pour Reggiani. Mais Dabadie était un homme de lettres dans tous les sens du terme, auteur de sketchs, de pièces de théâtre et de scénarios, là aussi que des tubes. César et Rosalie de Claude Sauté ou encore Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert.
Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet.
Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal? C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz.
Maman.
En plus, qu'il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien.
Arrête.
Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère.
Et dans le rôle de la mère abusive, ben oui. Marthe Villalonga, bien sûr.
Une joie extraordinaire, parce que en plus de ça qu'il écrivait des choses formidables, il était toujours simple, le sourire, vraiment un copain, quoi, si je puis dire. Moi, je ne l'ai pas connu beaucoup, longtemps, mais chaque fois que je le rencontrais, c'était vraiment comme un ami. Moi, ça m'a donné vraiment un rôle extraordinaire dans ses films. Pof, c'est tombé impeccable. Mais c'était quelqu'un de formidable. Hein. Je pense à lui beaucoup.
Marthe Villalonga avec Stéphane Boutsock, Jean-Loup Dabadie qui était académicien, bien sûr, et qui avait cette formule. Immortel, c'est bien. Hein. Quel dommage, ça ne dure qu'une vie.
Oui, et nous lui rendrons hommage à 9h avec l'équipe de Laissez-vous tenter. C'était le journal d'Isabelle Choquet.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nos correspondants en région nous font découvrir chaque matin de très très jolis coins de France, parfois à l'ombre des grands sites touristiques. Patrice Gabart, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est le cas justement du village de Turquan, où vous nous emmenez aujourd'hui, une petite cité de caractère. C'est au cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, entre Saumur et Montsoreau.
En effet, Turquan, c'est à 10 km au sud de Saumur, le long de la Loire, un petit village de 600 âmes qui saute aux yeux par ses couleurs à cette époque de l'année, le vert des vignes de Saumur-Champigny et le blanc des murs en tuffeau, en particulier des habitats troglodytes d'où étaient extraites ces pierres, des troglos, comme on dit sur place, qui servent désormais de maison, de lieu d'exposition, de cave. Pour en faire le tour, rien de tel qu'une belle balade à pied ou en vélo sur un sentier de 5 à 6 km que nous présente Marinette Brolière.
C'est un parcours ludique, hein. J'y apprenais toute l'histoire du tuffeau. Il part sur le centre du village, il monte au-dessus du coteau et régulièrement vous avez des panneaux qui vous expliquent l'histoire du tuffeau. Et en plus, à certains endroits, vous pouvez respirer l'odeur des champignons puisque Turquan, le dessus le vignoble, le dessous les champignons. Vous avez aussi des lucarnes où vous pouvez apercevoir des entrées de cave. Il est très très ludique ce parcours.
Secrétaire de mairie pendant 35 ans, Marinette est incollable sur l'histoire de son village, du passage de Jeanne d'Arc partie de Chinon pour rejoindre sa marraine à Saint-Hilaire-Saint-Florent au XVe siècle, à l'emprisonnement de Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante au château de la Fessardière de mai à novembre 1961. Et puis si vous voulez donc en savoir plus, alors n'hésitez pas à demander où est Marinette quand vous arrivez à Turquan.
Ah ben, Marinette est incontournable, on l'a compris. Est-ce que l'on peut aussi visiter des maisons troglodytes sur place, Patrice?
Oui, il y a un joli village d'artisans d'art dans les Troglos à flanc de coteau, c'est une première approche, mais je recommande aussi de frapper à la porte d'un vigneron. Aucune cave ne se ressemble dans les entrailles de ces falaises de craie, aux murs noircis de la fermentation du vin, et chacune a sa spécificité. Au domaine des Frémont-Clair de Christophe Alloin, par exemple, c'est un mur couvert de pièces de monnaie.
Là, nous sommes face à un mur où les clients font un vœu en rentrant à Saint-Vincent et collent leurs pièces. Saint-Vincent, patron des vignons. Avec l'humidité, ça forme un champignon microscopique et c'est un aspect gluant. Donc, vous prenez votre pièce, vous appuyez dessus, une simple pression et la pièce reste collée. Sans colle, la pièce tient directement sur la roche pendant des années. Pendant plus de 50 ans, la pièce ne tombe pas. Moi, je les ai toujours connus.
Il y a aussi le musée de la pomme tapée où l'on peut découvrir dans un immense troglo l'histoire des Périlleux, c'est ainsi que l'on appelait les travailleurs chargés d'extraire le tuffeau, et aussi l'histoire des pommes tapées, un fruit sec très prisé des navigateurs à la fin du 19e siècle pour éviter le scorbut, des pommes cuites à 60 degrés pendant 5 jours dans des fours à tuffeau, est sorti 2 à 3 fois pour recevoir des coups de marteau. À la manœuvre, Robin Roinet, le guide du musée.
On récupère nos paniers, on vient s'installer sur ce petit banc où on va prendre notre pomme, notre marteau, et on va venir taper sur le côté de la pomme. La pomme recevra environ une soixantaine de coups de marteau. Et on tapera pomme par pomme. Alors on va d'abord taper sur le côté, puis à la fin, on tapera toujours 2 à 3 coups sur le milieu de la pomme, afin de vraiment sortir un maximum d'eau.
Alors pour terminer Yves, et je sais que ça va vous plaire, je vous conseille de goûter à la pomme tapée réhydratée au saumur de Champigny avec sucre, cannelle, clou de girofle et poivre, accompagnée d'une boule de glace vanille ou de caramel au beurre salé. Un véritable délice.
Merci infiniment Patrice Gabart. On aura beaucoup de plaisir à prendre ces chemins à la rencontre notamment de Marinette et de goûter cette fameuse pomme tapée dont nous allons mettre la photo parce que vous nous l'avez très gentiment envoyée sur le site rtl.fr.